9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
On parle de santé le week-end aussi sur Beurre FM avec mon invité, le docteur Sabrina Ali Benali. Bonjour et bienvenue.
Presque docteur, bonjour.
Oui, alors médecin remplaçant.
Voilà.
Ouais, presque. Mais vous avez le titre de médecin alors?
Alors on est médecin, oui.
Voilà.
On est médecin et puis ensuite il faut qu'on passe notre thèse pour avoir le titre de docteur.
Voilà. Donc je suis alors, matin, vous êtes médecin remplaçant dans une association de permanence de soins, les urgences médicales à Paris, c'est ça?
C'est ça.
Vous publiez La révolte d'une interne aux éditions Le Cherche Midi et vous avez voulu écrire ce livre en rentrant par les urgences parce que vous dites que finalement quand on rentre à l'hôpital, on commence par les urgences.
Ouais, ça me paraissait. J'avais commencé à l'écrire en rentrant dans ce livre par mes études, comme moi je suis rentrée en médecine. Et puis, je me suis dit, mais en fait, non, pour parler aujourd'hui de la santé, le plus pertinent, c'est d'y entrer par là où la plupart des gens y entrent, donc par les urgences. Et comme en plus, les urgences sont un reflet de la déréliction de l'hôpital, c'était...
De cette crise de l'hôpital, mais aussi de la société.
Bien sûr.
Qu'est-ce que les urgences nous disent d'une société ?
Il n'y a pas que les urgences, il y a plein de choses qui nous disent des choses d'une société. Et les urgences, elles sont, comme je vous le dis dans le livre, un petit peu le dernier endroit où se retrouvent tous les maux de la société dont on s'occupe ailleurs. On est un petit peu le dernier rempart. C'est les sans-logis, c'est les femmes victimes de violences qui n'ont pas d'autre endroit où aller, c'est les gens qui sont dans une précarité économique et qui n'ont pas de quoi s'acheter un test de grossesse ou des choses comme ça. Donc effectivement, on est le lieu de plein de choses, aussi d'accueil de personnes âgées, de familles qui sont trop éprouvées et qui viennent avoir un petit peu de répit pour une nuit ou deux parce qu'ils n'ont pas de place en EHPAD, etc. Donc effectivement, on voit qu'aujourd'hui, en plus des urgences stricto sensu médicales et organiques, on se retrouve à être un petit peu l'accueil de tous les maux. Mais surtout, on n'a pas le temps, en fait, c'est ça le vrai problème aujourd'hui, de prendre en charge toutes ces demandes parce que beaucoup ne sont pas... ne devraient pas normalement être assurés par nous.
Alors, votre livre est aussi un livre de propositions. Et donc, vous dites que finalement, on pourrait déjà créer une structure d'orientation.
Tout à fait. Alors, on pourrait faire plein de choses. Les gens sont, les soignants, les professionnels de santé, les usagers, les syndicats sont plein d'idées. Le vrai problème, c'est qu'il y a une déconnexion totale, en fait, entre les gens qui nous gouvernent et ceux qui sont sur le terrain, puisqu'aujourd'hui, de toutes les propositions qui sont faites, ils ne sont pas écoutés. Et puis là, vous avez en plus de ça, non seulement ce problème-là d'orientation, etc., mais juste l'étouffement financier, ce qui est le plus gros problème. Ce qui est pour la première fois dans l'histoire de ce pays. Il faut se rappeler que les 4 fédérations hospitalières du pays...
Cette semaine,
ont appelé à geler... les demandes d'économie qui pesaient sur les hôpitaux parce que là c'est une catastrophe et ça devient dangereux pour les patients, pour les personnels soignants. Donc là effectivement il est temps d'écouter les professionnels.
Ça s'est jamais vu.
Ça s'est jamais vu.
Donc votre livre est aussi un diagnostic sur la santé de l'hôpital comme vous le feriez d'un patient. Pour ça, vous avez utilisé des outils techniques pour faire cette analyse. Alors, il y a un diagnostic que vous faites, c'est celui de la dérive marchande de la santé dans une vision néolibérale court-termiste. Cette dérive marchande, elle est arrivée quand ?
Comme je l'explique. Alors justement, c'était très important de prendre le temps de l'expliquer. Hier, je crois que j'ai eu un des plus beaux messages d'une jeune infirmière qui m'a dit « Merci parce que j'ai pu enfin relier tout ce qui se passait sur mon quotidien et comprendre comment on était arrivé là. Et en fait, c'est très important de donner aux soignants les outils de comprendre ce qui s'est passé. Donc dans le livre, je réexplique, j'essaye de le faire de manière très pédagogique, comment depuis 3 décennies, on a instauré progressivement des mesures de privatisation de la santé, comment on a emmené l'hôpital vers l'entreprise.
Alors, ce qui est intéressant, vous écrivez dans votre livre que l'hôpital public n'existe plus.
Oui, juridiquement.
Juridiquement, ouais. L'hôpital public n'existe plus. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire ce que ça veut dire, qu'on en a enlevé. Vous savez, quand on en... c'est dans une société, il y a des choses qui sont très importantes. Il y a notamment les choses avec lesquelles on se définit. Et quand on définit les mots, vous voyez quand aujourd'hui, on a enlevé donc ce terme, hôpital public. Aujourd'hui, on parle de management. On dit, on a volé le mot la gauche, gauche autrefois socialiste, etc. Et donc maintenant, on enlève ça, on demande aux infirmiers, aux aides-soignants de la flexibilité, de la polyvalence, de la rentabilité. Voilà comment on arrive petit à petit en fait à enlever. Et donc déjà en enlevant ce terme juridique, et je
pour moi, si on me dit que l'hôpital public n'existe plus, ça veut dire que ce sont devenus des cliniques.
Non, mais vous pouvez l'appeler autrement. Il y a des hôpitaux, structures d'intérêt public, il y a plein de façons, sauf que c'est comme ça qu'on dépèce, en fait. On s'occupe d'abord des mots. Là, il n'y a pas très longtemps, ils ont voulu aussi changer le statut de la sécurité sociale et de l'appeler autrement. Alors, il y a des reculs, mais c'est la politique des petits pas, si vous voulez. Comment tout doucement on va venir là? Comment tout doucement on fait un retrait? Vous voyez là, par exemple, beaucoup d'instituts se sont affolés du fait que pour la première fois, pareil, dans l'histoire, l'État dit qu'il ne compensera pas à la sécurité sociale les exonérations de cotisations. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça s'appelle la politique des caisses vides. On va enlever de l'argent de la Sécu et on ne compense pas les cotisations. Donc, à terme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le trou de la Sécu. Donc, on nous fait dire que c'est un système qui ne marche pas, vous voyez bien. Donc, il faut que les mutuelles prennent une part de remboursement, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on avance petit à petit vers une santé marchande. Et là, déjà, on a extrêmement... Aujourd'hui, on est à 70% à peu près de remboursement Sécu. Et les économistes et experts de la santé disent que si on suit ce rythme-là, en 2050, on sera plus qu'à 50% à peu près. Et donc, c'est rompre avec tous les impératifs de solidarité qui ont été construits qu'ont construit les principes de la sécurité sociale elle-même et à laquelle tous les Français sont très attachés.
Mais quand on dit aujourd'hui que la France a le meilleur système de protection sociale du monde, qu'elle a le meilleur parcours de santé du monde, vous êtes d'accord avec ça ?
On l'a plus. Alors là, maintenant, on est 15e sur le classement des parcours de santé.
Mais c'est encore ce qu'on dit en France. On dit, voilà, on a les meilleurs...
Alors je sais pas, moi c'est pas, je sais pas, j'entends pas ça, mais enfin je l'entends beaucoup de quelques médias dominants qui disent ça, mais qui sont, je le rappelle, des études pour avoir des résultats aujourd'hui, c'est des études menées il y a 15 et 20 ans, d'accord.
Donc c'est plus le cas.
Alors évidemment, je pense que c'est plus le cas. D'ailleurs, je pense pas, si vous voulez, à un moment quand ça dépasse et que vous avez les quatre fédérations du pays et c'est transpartisan. Je rappelle que le président de la Fédération hospitalière de France est un maire UDI à Fontainebleau, donc ça dépasse. Les bords politiques, mais surtout, il faut rappeler où on en est, parce que les chiffres, les statistiques, on est 15e, on est 20e, c'est une chose de parler comme ça, dire des listes où vous comptez des dizaines de soignants qui ont mis fin à leur jour parce que c'était plus possible de travailler dans ces conditions. Quand vous comptez les gens qui sont morts dans les couloirs des salles d'attente des urgences avant même d'avoir été pu examinés, c'est là qu'on en est aujourd'hui.
Là, on parle des patients.
Voilà, on parle des patients. Quand vous appelez des dizaines d'hôpitaux aujourd'hui pour transférer quelqu'un, vous allez sur toutes les pages. Il y a une page qui s'est créée qui s'appelle « Mot d'urgentiste ». Toutes les semaines, vous avez un urgentiste qui témoigne. Des gens qui ont 35 ans, qui sont dégoûtés de leur métier, qui ne peuvent plus... comme ça, faire l'inverse de ce pour quoi ils ont étudié, soigner les gens et avoir aujourd'hui l'impression d'être des ouvriers à la chaîne, des robots. Donc, c'est la vérité.
Ça veut dire quoi, vendre son patient à l'hôpital ?
Vendre son patient, c'est quand il a, c'est quand il est incontinent urinaire, dire non, ça va, il est pas incontinent, c'est ne pas dire que
c'est pour le refourguer aux autres,
en fait. Et on va essayer comme ça de, comme on dit, la patate chaude, se la repasser. Et comme on sait tous que les services sont débordés, ont peu de personnel, etc. Quand il s'agit d'un patient lourd, eh ben on l'enrobe de papier cadeau pour que ça passe mieux et le refourguer ailleurs. Donc
il y a des gens qui sont pas arrivés à l'hôpital. C'était un nouveau métier, c'est les codeurs.
Ouais.
C'est quoi un codeur ?
C'est pas si nouveau maintenant.
Non, mais d'accord, mais moi je sais pas ce que c'était qu'un codeur.
Ouais. Alors normalement, c'est les médecins, les codeurs déjà.
Mais il faut expliquer aux gens en fait que finalement maintenant tout est codé, mais ça change la vie finalement. Parce que ça change la façon dont on est pris en charge.
Bien sûr. Alors ça, la T2A, ça fait un petit moment déjà qu'elle est là.
La T2A, c'est
la tarification à l'acte. C'est-à-dire que les gens, ils ont une pathologie, c'est codé. On vous met une perfusion, on rentre un code. Exactement comme dans un supermarché, c'est un ticket, un code barre.
Mais c'est un vrai, c'est un, c'est un code barre. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre.
C'est un vrai code barre pour chaque pathologie qui est rentrée. Et à la fin de votre séjour, le code, on aligne tous les codes barres, comme on alignerait votre paquet de pâtes, votre paquet de riz et vos céréales. Et puis, ça fait un prix total. Et c'est comme ça que un service est rémunéré. On calcule donc le prix que ça a coûté. Et c'est comme ça qu'on vous rémunère. Et donc, ce qui en découle, c'est que si on vous a pas fait assez de codes barres, et que vous n'avez pas donc fait assez d'activités, on ne rentre pas beaucoup d'argent. Donc, il faut bien comprendre que pour un service, eh ben, avoir des gens
rentables... On a intérêt à ce que vous ayez le maximum de codes barres.
Voilà, il faut faire beaucoup de choses. Mais donc, un papy, une mamie, n'importe qui a juste besoin de passer 2-3 jours de plus en hospitalisation pour récupérer parce qu'elle est fatiguée, qu'il n'arrive pas encore à marcher après son hospitalisation, mais à qui on ne fait rien d'autre que donner un Doliprane parce qu'il a mal, ce n'est pas du tout rentable. Il faut qu'il sorte, il faut qu'il dégage. Donc ça, c'est pour ça que nous, il faut qu'on vende nos patients pour le dégager, parce que là, ils ramènent pas de sous pour l'hôpital. Et là-dedans, vous imaginez bien que vous examinez, moi, avec mon stéthoscope, voir si vous avez une infection, ou vous rassurer, ou savoir tout ça, ça fait pas partie de l'activité. Hein. Mmh. Ça n'a pas de code barre.
Ça n'a pas de code barre, donc on va pas le faire parce que ça passe.
Non, il y a que l'acte, qui a un code barre. Donc vous imaginez bien que, comme vous devez être très rentable pour avoir de l'argent, parce que si vous avez pas assez d'argent, il faut savoir que c'est pas non seulement vous n'avez pas assez d'argent, c'est qu'on vous dit « Ah, mais là, vous n'avez pas assez d'activité dans ce service. » Donc, on vous enlève une infirmière, on enlève une aide-soignante, on ferme 2 lits. Donc, on pousse à l'activité, il faut faire sortir plus vite, etc. On devient, vous savez, comme ces caissières où ils ont montré qu'il fallait qu'elles passent vite. Il y a eu un reportage des UC là-dessus. Et ben nous, c'est pareil. Il faut que les gens ils passent vite, qu'on en fasse le plus possible. La seule chose qu'on dit, c'est que nous, on n'est pas des caissiers. Déjà, c'est très malheureux pour les caissiers qu'ils en soient là et qu'ils aient même pas le temps de dire bonjour et au revoir. Alors, vous imaginez quand il s'agit d'humains, quand les gens ont peur, quand ils sont anxieux, quand ils sont fragiles.
Sauf que les caissiers, on est en train de leur dire, je vous préviens, si vous n'allez pas assez vite, on va vous remplacer par des machines et les gens font le travail eux-mêmes. Hein.
C'est ça. Mais nous, on essaye de nous... On nous demande, nous, d'être des machines. Puisqu'on ne peut pas être remplacé par des machines. On n'a pas encore inventé la machine. Quoique, j'ai vu dans un EHPAD, maintenant, ils ont un robot pour leur faire la gym. Donc, c'est venu. Il n'y a plus qu'à espérer que la dame qui se fasse une luxation d'épaule, les yeux du robot puissent voir qu'elle va se faire une luxation. Mais donc, voilà, effectivement, on en est là. Et puis, maintenant aussi, à défaut d'avoir quelqu'un qui vous passe un coup de téléphone ou un médecin qui passe chez vous après une opération en ambulatoire où vous rentrez le matin, vous sortez le soir, vous recevez un SMS à la maison, comme il est dans le livre. Si vous avez du sang,
Les exemples. Vous avez fait les captures d'écran des SMS.
Voilà, donc c'est l'époque des robots. C'est la médecine de 2018. Plus d'humanité, plus de rapports. On soigne très vite. Et c'est ça qu'on appelle le progrès, selon les gens qui nous gouvernent.
Mais attendez, il y a les gens qui nous gouvernent, mais il y a nous, il y a les patients. Qu'est-ce que les gens font pour finalement se rebeller contre ça?
Ouais, beaucoup de choses. Hein. Il y a eu des vidéos, des grèves de la faim. Ça, c'est quand même assez impressionnant.
Ça, chez les personnels hospitaliers.
La quatrième grève de la faim en 2018 pour des soignants, c'est ça en dit long sur...
Mais je parle de nous, les patients. Là. Qu'est-ce qu'on fait refuser ça?
D'abord, moi, je crois que les patients, les gens, il faut qu'ils soient au courant. Moi, c'est à ça qu'il sert, ce livre.
Ouais.
C'est-à-dire que
moi, j'ai appris plein de trucs. Hein, ouais.
Voilà, c'est-à-dire qu'à part, finalement, le jour où vous allez aux urgences, parce que vous vous êtes cassé un bras, vous vous êtes fait une plaie, etc., mais qui... à part des malades chroniques ou quand il vous arrive un grave accident, à passer une semaine en hospitalisation, voire plus. Pas grand monde, finalement. Pas grand monde. Et puis, nous, à l'intérieur, on a aussi tendance à faire tellement du mieux qu'on peut, à tellement reboucher les trous, que tout le monde ne sait pas tout. Et on essaye de pas affoler les gens. Et on va faire tous comme je le dis là, moi, une dame qui attend depuis 3 heures parce que les brancardiers, ils sont pris ailleurs, je vais l'emmener moi, etc. Sauf que les gens savent pas.
Et ça, ça n'a pas de code.
Voilà, mais donc c'est aussi pour ça, c'est à ça qu'il sert ce livre. C'est qu'on n'y arrivera pas sans que les citoyens nous aident, parce que c'est pour eux aussi qu'on le fait. Donc il faut qu'ils prennent conscience de ce qui se passe dans l'hôpital pour pouvoir nous aider, parce que s'ils ne savent pas, ils ne peuvent pas nous aider sur des choses qui leur sont inconnues.
Sabrina Ali Benali, La révolte d'une interne, santé, hôpital, état d'urgence. Votre livre est sorti aux éditions Cherche Midi. Vous êtes notre invité jusqu'à 10h.
À votre service, reviens dans un instant. À votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
à votre santé jusqu'à 10h sur Beurre FM avec notre invitée Sabrina Ali Ben Ali. Vous publiez La révolte d'une interne, santé, hôpital, état d'urgence. L'interne, c'est un petit peu votre personnage médiatique.
Oui, on peut dire ça.
Bonjour, c'est l'interne, puisque vous avez fait le buzz, ouais. Le buzz avec une vidéo. Alors, vous aviez commencé à faire des vidéos pour vous adresser à Marisol Touraine, qui était ministre de la Santé à l'époque. Il y en a une qui a buzzé plus tard, hein, mais vous aviez commencé à vous adresser. Ouais. Comment c'est venu pour vous cette idée de vous adresser à la ministre par l'intermédiaire de petites capsules vidéo.
Oh ben ça, je vous le dis, c'est ma camarade Danielle Simonet qui est au Conseil de Paris, qui avait l'habitude des vidéos et comme je très souvent révoltée par ce qui se passe à l'hôpital, c'est vrai que je la raconte quand on se voit comme un café, je dis oh là là, tu vois, c'est pas possible, là il se passe ça, tu vois, il y a la DMS, durée moyenne de séjour, etc. Et je lui explique comment ça se passe, comment on vend son patient justement pour rester dans les cadres de la DMS. Elle me dit, mais tout ce que tu me dis là, il faudrait que les gens ils sachent ça. Tu devrais dire en vidéo. Comme j'ai eu une petite fille et que j'étais en congé maternité, je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion, pendant qu'elle fait la sieste et que j'ai un petit peu de temps, parce qu'à l'hôpital, ça aurait été plus difficile de dégager ces temps-là d'écriture. Je me suis décidée donc à faire la première vidéo pour essayer d'expliquer de façon pédagogique aux gens le plan qu'elle avait fait au départ, le plan Touraine, donc sous une forme vidéo de 9 minutes, qui avait déjà cette même marotte, hein, comme Madame Buzyn de l'ambulatoire et de l'augmentation de l'ambulatoire.
Madame Buzyn, elle n'est pas encore aussi célèbre que Madame Touraine,
hein. Ou célèbre, je ne sais pas. En tout cas, désaimée, oui.
Oui, désaimée, mais connue pas autant encore.
Hein, ah, bah,
l'actuel ministre de la Santé.
Ah oui, ouais, moi je pense, si. Mais bon, toujours est-il qu'ensuite, j'ai eu cette... une autre de mes copines aides-soignantes qui m'a raconté hyper énervée qu'elle se sentait mal de faire ses toilettes en 6 minutes, enfin qu'il lui restait plus que 6 minutes quoi, pour faire ses toilettes.
Par patient, oui.
Par patient.
Et que finalement, elle faisait mal aux gens.
Bien sûr, évidemment. Et donc j'ai décidé de faire ma deuxième vidéo avec du shampoing plein les cheveux pour expliquer que ce n'était pas possible de se laver en 6 minutes. Et donc voilà, et puis celle-ci est venue parce que, comme je le raconte hein, dans la vidéo, la garde que j'ai eue était absolument hardcoreissime, comme je dis. Et quand mon conjoint m'a montré le journal avec...
Alors c'est la une du Parisien.
La une du Parisien, Madame Touraine, état d'urgence pour la grippe, alors que nous on est... que vous passez, qu'on vous dit qu'on va ouvrir des lits et que vous, la veille, vous avez eu une dame avec une insuffisance cardiaque massive, vous appelez 11 hôpitaux, vous n'êtes pas... vous ne pouvez pas trouver un seul lit, et que ça se reproduit tous les jours, partout, vous dites, c'est quoi cette blague, quoi ?
Écoutez, Mme Touraine, l'état d'urgence, nous, on le vit tous les jours,
voilà,
si vous voulez bien.
Voilà, c'est ça. Et puis, la preuve, c'est qu'on ne fait pas 12 millions de vues si la moitié des gens ne vivent pas ça.
Non, mais c'est ce que vous faites 12 millions de vues. Ouais. Avec du recul, 12 millions de vues, c'est énorme. Est-ce que ça a l'efficacité du nombre de gens qui l'ont vu ? En termes d'impact et en termes de messages à faire passer, en termes de résultats, est-ce que finalement votre vidéo elle a fait un buzz pour rien ou est-ce qu'elle a fait un buzz efficace ?
Alors il y a les deux.
C'est énorme,
d'abord,
hein, de 12 millions,
oui,
c'est,
ouais,
voilà.
Il y a pas. Alors, moi je crois pas au buzz efficace parce que justement on appelle ça buzz.
Parce que ça a été un buzz,
bien
faut
sûr,
dire.
Voilà.
Tout
mais
le monde
en fait,
avait vu.
Vous savez, j'ai été très très surprise quand vous avez une invitation radio. Puisque beaucoup de médias m'ont invité cette semaine-là et que du coup vous dites non là je pourrais vendredi c'est pas possible je peux lundi et qu'on vous dit mais lundi c'est trop tard.
Non, c'est trop tard, vous serez sorti des radars comme on dit.
Voilà. Donc si vous voulez alors que de fait l'état d'urgence c'est tous les jours, c'est encore depuis. Donc ça et vous dites mais donc à un moment c'est bien ça le problème. C'est pour ça qu'un buzz il peut pas être efficace parce que justement on n'est pas là pour parler du message, on parle du buzz.
Non. Donc, et vous êtes là pour vendre du fond. Et au départ, votre série de vidéos, c'était pour faire passer pédagogiquement des messages de fond.
Voilà, mais là où par contre, il y a une vraie efficacité, c'est que ça a quand même permis de libérer la parole, que de plus en plus de gens se sentent capables de le faire, n'aient pas peur, de créer aussi des soutiens massifs, de créer une page sur laquelle aujourd'hui, il y a ma page Facebook, un peu plus de 89 000 abonnés, qui est un vrai endroit d'échange, d'information. De confraternité entre tous les acteurs du soin, puisque j'ai toujours tenu à défendre que ce soit les ambulanciers, les administratifs, les soignants, les paramèdes, les médecins, toutes les chaînes du soin, parce que pour moi, on est tous les ouvriers de la même chaîne du soin. Et donc, ça a quand même permis ça. Ça a permis l'aboutissement de ce livre. Donc oui, c'est pas le buzz en soi. C'est comment la ténacité, la droiture et la sincérité, je crois, justement, dépassent le buzz et permettent de faire tenir quand on a des convictions, qu'elles sont partagées par le plus grand nombre et que la cause est noble et juste.
Oui, ce qui passe aussi, c'est parce que vous êtes une bonne cliente, que vous le faites avec une forme d'humour. Et c'est ça qui a plu beaucoup, la façon dont vous...
Ah oui, voyez, oui, peut-être, oui, le format était peut-être...
Oui,
enfin,
c'est,
bien sûr,
c'est
ouais,
ça,
peut-être.
Vous êtes une bonne communicante. D'accord, mais qu'est-ce que vous arrivez à dire de plus dans un livre que vous n'auriez pas pu dire à travers des vidéos, par exemple?
Ben, peut-être qu'on peut, si j'en fais 52 de 3 minutes chacune, mais c'est un peu plus long. Mmh. Et puis, je crois que même si... l'humour et le cynisme, vous savez, on le pratique, même nous à l'hôpital, hein, vous êtes obligés, sinon vous résistez pas à la difficulté et à la douleur de moments qu'on a dans ce métier. Mais ceci dit, tout ne peut pas se dire sur ce ton-là. D'abord, dans ce livre-là, moi j'avais aussi envie de dire aux gens pourquoi, comment je suis arrivée là, comment je suis arrivée à militer, donc
Déjà, comment vous arrivez à la médecine, hein?
Oui, quand je dis... ouais, tout à fait.
Parce que finalement, on se rend compte que pour vous, c'est une vraie vocation. Vous avez 8 ans. Finalement, quand vous êtes confronté à titre personnel à l'hôpital, pour la première fois, est-ce que c'est là que vous apprenez à l'aimer? Parce que vous l'aimez, hein? Il y a une histoire d'amour. Vous dites que d'abord, vous aimez l'hôpital.
Ouais.
C'est bizarre. Vous aimez les odeurs, vous aimez les murs, même les murs qui se lézardent. Ouais. Alors que les patients, je peux vous dire que quand ils vont à l'hôpital, ils l'aiment pas des masses, hein.
Ouais, moi j'adore.
C'est vrai?
c'est vrai. Il me manque terriblement. Là, j'y suis pas, par exemple. Et je suis très contente dans le travail dans lequel je suis, puisque je peux écrire ma thèse en même temps. J'ai pu écrire le livre. Ça me permet une flexibilité des heures de travail, mais ça me manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, je vais souvent voir mes collègues quand j'ai une pause, parfois la nuit, je passe les voir et ça me fait plaisir d'être aux urgences avec eux.
Mais comment vous expliquez qu'alors qu'il y a tellement de burn-out aux urgences, que c'est un rythme tellement effréné, comment est-ce que vous expliquez que vous, finalement, vous aimez ça et que vous aimez l'humaniser?
Mais je crois qu'on aime tous. D'ailleurs, on ferait pas... Il faut bien comprendre, il y a quelque chose... qui est peut-être difficile à appréhender pour beaucoup de gens qui interrogent les soignants. En fait, beaucoup disent comment vous pouvez aimer autant, etc., et en même temps aller si mal. Mais en fait, il faut bien comprendre que c'est parce qu'on l'aime autant qu'on se bat autant pour lui. C'est comme, imaginez quand vous avez un enfant qui est malade et qui a une longue maladie, vous ne le laissez pas tomber. Vous l'aimez plus que tout et vous allez vous battre.
Et vous l'aimez tous les jours.
Et vous l'aimez tous les jours et pas moins. Et c'est pas justement vous allez vous battre contre la maladie qui le prend parce que vous savez à quel point on peut être merveilleux quand on va bien. Donc c'est parce que nous tous on sait à quel point l'hôpital et pas que l'hôpital, la santé, les EHPAD, toutes les secteurs du soin peuvent être merveilleux et tous sont aujourd'hui touchés. Donc c'est pour ça qu'on se bat. Mais du coup, oui, dans ce livre, il n'y a pas le temps de raconter tout ça. Et puis tout ne peut pas se dire avec humour et légèreté, même si évidemment c'est un bon moyen de faire passer certaines choses. Il y a néanmoins, vous voyez, là il y a des témoignages de soignants dans le livre que vous avez lu. Voilà, quand une femme a pensé à se suicider et à se foutre en l'air alors qu'elle a deux petites filles adorables et un mari, etc., parce qu'elle en peut plus. Quand moi je raconte la perte de Lily, qui m'a emmenée à défendre cette médecine humaine, etc., et à défendre le fait qu'il faut mieux s'occuper aussi des étudiants, infirmiers en médecine, tous les étudiants et tous les gens qui rentrent dans le corps de l'hôpital. Tout peut pas se dire avec légèreté et ironie, donc il y a aussi de la place pour ça qu'il y avait peut-être pas dans mes vidéos.
Donc vous avez 8 ans quand vous êtes confronté pour la première fois à l'hôpital, vous avez failli mourir d'ailleurs. Vous l'entendez, vous êtes dans un hélicoptère, vous allez vous faire hospitaliser à l'hôpital Purpan, c'est vous qui me l'avez dit tout à l'heure, hein. Je pensais que c'était Rangueil ou Purpan, l'hôpital de Toulouse. En quoi est-ce que pour vous finalement l'hôpital c'est quelque chose de magique quand vous aviez 8 ans?
Alors, magique, je sais pas si c'est à la fois...
Parce que vous êtes sorti réparé, ils vous ont réparé.
Bien sûr, c'est à la fois beaucoup de douleur et à la fois quelque chose de merveilleux, puisque effectivement, je tombe sur le bord d'une piscine, je me fracture un rein, j'ai une hémorragie interne, je comprends assez rapidement comme je le dis dans le livre, bon, vous avez un médecin qui dit bon. Qu'il n'est pas sûr que vous surviviez, même à 8 ans, on comprend ce que ça veut dire. Après l'hélicoptère, ça a été le blackout, et j'ai eu un état de choc de 8 jours derrière. D'ailleurs, je pensais que c'était 2, c'est ma maman qui m'a dit récemment, j'écris 2 dans le livre, elle m'a dit « Non, t'as été en état de choc 8 jours, sans parler ». Et donc tout ça, c'est beaucoup de douleurs, beaucoup de traumatismes qu'il a fallu aussi soigner ensuite, pas que physique. Mais comme je le raconte là, je me rappelle de la douceur des soignants autour de moi. Comment, quand j'y pense, je me dis comment il y a eu donc des gens qui m'ont transporté en hélicoptère. Il y a une équipe qui m'attendait, endormie. Des gens qui ont mis leurs gants stériles, leurs blouses, leurs casaques, qui ont ouvert mon rein. Faut se le représenter, c'est ça un bloc opératoire. Il met de la bétadine, il y passe des heures. Ensuite, on me met dans un lit. Tous les matins, il y a des gens qui refont mon lit, qui me servent à déjeuner, qui viennent s'enquérir de mon état, qui font ça pendant un mois et demi. On me fait des examens, des échographies. Et tout ça, juste pour moi. Et on fait ça aujourd'hui pour les mini-enfants, juste pour qu'une
Mais ça, c'est un hôpital qui fonctionne.
Ça, c'est le plus beau cadeau du monde. Ils m'ont permis de vivre encore, de faire ça aujourd'hui, d'aller faire médecine, de sauver moi aussi et de recommencer cette chaîne-là sur des enfants, sur des parents, sur tout le monde. Et oui, comment on peut pas être... ça, c'est de la magie.
Alors, il y a un deuxième événement que vous racontez, puisque vous parliez de la perte de Lily tout à l'heure, mais c'est la perte de votre papa, qui est mort d'un infarctus. Hein. Vous avez 12 ans quand il décède. Est-ce que vous vous êtes sentie impuissante de ne pas l'avoir sauvé ou soigné?
Non, pas du tout. J'avais 12 ans, donc je pense qu'il n'aurait pas fallu que ça m'arrive aujourd'hui. Médecin, de ne pas pouvoir soigner un des miens qui tomberait devant moi. Mais à 12 ans...
Mais est-ce que ça participait à votre envie, finalement, de soigner les autres?
Bah évidemment, ça évidemment. Comme je le dis, ça participait à mon envie de soigner et de laisser la vie à tous ceux qui peuvent encore l'avoir. Et puis surtout, de réparer toutes les injustices du monde. C'est-à-dire qu'à 12 ans, vous vous dites, comme je le raconte dans le livre, moi j'ai mis un moment à comprendre, voilà, pour plein de raisons... Il y a un deuil qui a été fait un petit peu bizarrement, mais quand vous entendez vos copains, même quand les copines elles se disputent avec leur papa et qu'elles disent « Ah, papa, t'es chiant !» Et ben en fait, on a vachement envie de faire ça soi aussi et de dire « Ah, papa, t'es chiant !» et on peut pas parce qu'on en a plus. Et donc là, moi, ça a commencé comme ça, ma relation de révolte avec les injustices de la vie. Alors, en faisant médecine,
Et le combat des injustices, c'est quelque chose qui vous structure.
Voilà, après, ça me structure. En faisant médecine...
Ça, faut être clair. Si vous êtes quelqu'un qui combat les injustices, vous êtes militante associative, voilà.
Ouais, je me dis tout simplement, bon, ok, pour les injustices du corps, on va faire médecine, on va apprendre, on va prendre des livres, et puis ça, on va les combattre. Bon, des fois, on ne peut pas. Hein. Des fois, c'est du palliatif. Des fois, c'est grave et on ne peut pas les combattre et c'est comme ça. Mais on fait tout ce qu'on peut. Et puis, pour les autres, eh ben, je me dis, OK, on va faire pareil. Parce que là, ce n'est pas la médecine. Alors, eh ben, on va lutter, on va combattre, on va lever le poing avec les copains pour que les gens... moi, c'était parce que j'avais plus de papa. Ben, eux, c'est parce qu'ils n'ont pas de toit. Eux, c'est parce qu'ils n'ont plus, etc. Et puis, une fois qu'on
a... Et ça, c'est votre engagement, c'est votre façon d'être encore plus utile au quotidien.
Ouais, je sais. Oui,
utile en fait, ou pas?
J'espère, mais c'est que je sais pas vivre autrement, tout simplement, parce qu'on n'est pas... une fois qu'on a mis le bras dedans, je crois que c'est le corps qui est pris tout entier, et on est quand même plus heureux dans une société qui va bien. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui arrivent à sourire en prenant le métro et en voyant les gens assis par terre et des enfants assis dans le froid qui tendent la main. Je crois que quand même... Pour tout le monde, ça touche, on détourne le regard, c'est difficile. Et quand on a ça à Paris, en plus, on est très, très exposé. Donc, si vous voulez, à un moment, c'est juste que je me dis, bon, bah, là où on peut être utile pour essayer de réparer un petit bout de tout ça, faisons-le.
Sabrina Ali Benali, notre invitée. Alors, son livre s'appelle « La révolte d'une interne, santé, hôpital, état d'urgence ». L'éditeur, c'est Le Cherche Midi. On revient dans un instant.
À votre service, reviens dans un instant. À votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
à votre santé. Jusqu'à 10h sur Beurre FM avec Sabrina Ali Benali qui est avec nous. La révolte d'une interne, c'est le titre du témoignage que vous publiez. C'est votre histoire, santé, hôpital, état d'urgence. C'est aussi un diagnostic que vous faites sur l'hôpital. Hein. C'est aux éditions Les Cherches Midi. Qu'est-ce qu'elle a dit votre grand-mère Kabyle quand vous avez dit que vous vouliez être médecin?
Je me rappelle pas, j'étais petite puisque j'ai voulu commencer à faire médecine effectivement à 8 ans. Mais par contre, le jour où, comme je le raconte dans le livre, où mon oncle a téléphoné parce qu'il était devant les listes et que le concours de P1, il y avait mon nom sur la liste des admis, là comme je disais, bravo ma fille, toi vas être docteur. Et ça, c'était...
La joie a été de courte durée, puisque cette année-là, il y a eu des problèmes de coefficients. Donc, en fait, vous avez été admissible, et puis vous avez disparu, et puis vous avez été réadmise dans la même journée.
C'est ça. Non, j'ai pas disparu. Tout le monde avait disparu, voilà. Mais ça arrive assez... malheureusement, fréquemment, quand même, les bugs dans les gros concours, et ça, c'est un vrai problème. Il faut respecter un peu plus les jeunes gens qui passent une année, qui sont complètement à cran. Et puis là, effectivement, il y avait une erreur de coefficient dans les résultats, ce qui fait qu'entre les résultats du matin et ils les ont republiés le soir parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait une erreur en mettant une note, je crois, à coefficient 2 au lieu de coefficient 8. Mmh. Alors moi, ça avait l'effet inverse, ça a augmenté ma note puisque c'était une matière où j'avais une très bonne note.
C'était tout bon pour vous.
Moi, c'était encore mieux. J'avais une meilleure note le soir que le matin. Mais enfin bon, le temps d'aller vérifier, de faire l'aller-retour jusqu'à la liste, vous passez quand même un mauvais moment. Mais par contre, il y a effectivement des gens qui avaient médecine le matin et qui, du coup, s'ils avaient une mauvaise note, c'était l'inverse. Eux, ils ne l'avaient plus le soir. Donc, Après, c'est
vous avez terminé votre pizza, alors, après.
Après, j'ai terminé la pizza. Mais c'est un vrai problème. Hein. Je pense surtout aux externes en D4, donc en sixième année de médecine, qui passent l'internat. Ça fait plusieurs fois qu'il y a des bugs où on leur demande de revenir passer une session. Enfin, vous avez des gens, ça fait 6 ans qu'ils travaillent. Ils se mettent dans des conditions pendant 2 ans. Ils bossent 12 heures par jour. Ils font des prépas, des confs le soir, etc. Ils se mettent, vous êtes 3 jours dans un hôtel, dans des salles immenses, avec la pression, puisque c'est ça qui décide de si vous allez être médecin généraliste, cardiologue, chirurgien. Donc c'est toute votre vie et la ville où vous allez exercer qui se décide sur ces 3 jours-là. Là, on leur dit il y a des bugs. Parfois, ils annulent au dernier moment un examen. Il faut le repasser un jour après, alors que vous avez des gens qui ont déjà pris leur billet pour partir en vacances après, etc., pour lâcher la pression. Donc, voilà, il faut aussi, là-dedans aussi, il faut remettre de l'humain, ne pas faire que des machines qui décident de tout ça, vérifier par 3 fois les examens et s'assurer qu'il n'y a pas de copies avec des annales, de copies avec des sujets qui ont déjà été faits en conf, pour respecter les étudiants et s'assurer de ne pas leur ajouter un stress supplémentaire. Qui est quand même dans un contexte particulièrement déjà stressant et anxiogène.
Alors l'hôpital, c'est un lieu où on se soigne, mais où on meurt aussi. Et vous dites que vous dites toujours au revoir aux patients qui décèdent, c'est-à-dire... C'est vous qui l'écrivez, hein.
Ouais, mais je dis au revoir, quoi. Je fais un certificat de décès. Alors.
Oui, ça j'ai bien compris. Mais de quelle façon est-ce que vous dites au revoir à ces gens qui sont décédés? Moi, ça m'a paru particulier. J'ai pas trouvé ça courant. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question. N'y voyez pas, il n'y a pas de.
C'est tellement bizarre d'être appelé. Alors quand on accompagne la mort, mais ça m'est pas arrivé souvent, ça m'est arrivé que 3 ou 4 fois d'accompagner vraiment la mort et de la suivre jusqu'au dernier souffle, peut-être un peu plus. Mais par contre, quand on est appelé dans les services, quand on est interne aux urgences, on est appelé pour un certificat de décès dans les étages, ou maintenant aujourd'hui avec mon métier, je suis appelée au domicile de patients pour faire le certificat de décès. Et c'est assez bizarre que je ne connais pas la personne, je ne l'ai jamais vue, je n'ai aucune idée de ses antécédents, de sa maladie, de rien. Et je viens juste pour confirmer qu'il est mort. C'est un peu...
Oui, c'est particulier.
Ouais.
Comme.
Ouais. Et je ne sais pas, il y a une forme de... À la fois de... Enfin, moi, je le ressens comme ça. Hein. Je ne dis pas... Ce n'est pas une vérité. Hein.
Mais vous parlez de vous. Et c'est votre expérience qu'on écoute.
Et moi, je le ressens comme le besoin de quand même, par respect pour cette personne-là, même si elle n'est plus là, d'avoir un lien et une forme de... de...
C'est quoi, c'est une prise de congé
rituel, ouais. de ce moment-là, où il n'est pas que un corps que je viens, dont je viens affirmer qu'il n'est plus là, mais où je dis au revoir monsieur, et puis c'est aussi une même si je crois en rien de particulier, comme je le dis, je sais pas trop s'il y a quelque chose à croire ou pas, ça j'ai jamais su, mais j'ai la sensation de dire un peu bon voyage quoi, vous voyez, bonne route, c'est un au revoir en même temps de je suis venue et on se connaît même pas, donc je reste polie comme si t'étais encore vivant, et à la fois un bon bonne route, au revoir aussi. Je sais pas, c'est moi j'ai besoin de faire ça à ce moment-là.
C'est votre pratique.
Ouais.
On mesure souvent l'état d'un hôpital à la réponse des médecins qui travaillent lorsqu'on leur demande s'ils s'y feraient soigner.
Ouais.
Mais alors aujourd'hui, les médecins qui travaillent dans les hôpitaux, qu'est-ce qu'ils répondraient si on leur posait cette question ?
Bah, y en a plein qui s'y font. En tout cas, il y en a plein qui prennent leurs précautions, c'est-à-dire avec qui, comment. Bon, d'abord, ne nous cachons pas. Je veux dire, chaque métier a ses privilèges. Les gens du train, ils ont les billets. Les gens qui sont pilotes d'avion ou stewards, ils ont des billets d'avion. Nous, on appelle nos confrères. On fait une biopsie en 3 jours. On passe un scanner dans la journée. Et
d'accord.
Voilà.
Il y a pas des passe-droits, mais en tout cas des avantages.
Voilà, il y a la fraternité de la confrérie. Donc ça, c'est bien normal. Et tant mieux. Mais aujourd'hui, effectivement, par contre, on prend énormément de précautions, on le sait tous, quand on a un proche hospitalisé, on appelle, dit bien, tu es la fille, le mari, la cousine de docteur Antel. Mmh. On se présente en général au service, et puis il y a aussi, en tout cas moi, beaucoup de mes collègues, confrères, etc., avec qui que j'ai eu comme chef, comme senior pendant l'internat, prenaient beaucoup des rendez-vous avec un de nos collègues praticiens dans l'hôpital, mais sur son second emploi, soit en clinique, soit des choses comme ça. Donc il allait l'opérer à l'extérieur. Parce que il faut être honnête, aujourd'hui, quand vous faites opérer, d'ailleurs, vous avez vu ce documentaire sur France 5, l'hôpital à fleur de peau, où on essaye de trouver des lits et que le chirurgien qui va opérer un monsieur d'une tumeur abdominale, on lui dit qu'il n'y a plus de lit et que c'est un fauteuil, qui va aller en fauteuil après avoir retiré une masse abdominale tumorale énorme. Vous imaginez bien que quand vous connaissez, déjà quand on connaît pas, c'est compliqué, mais n'importe quel médecin qui connaît n'accepterait pas d'être traité comme ça. Donc, il va le dire.
Vous racontez l'impatience de l'une de vos collègues lorsqu'une jeune femme admise en gynécologie refuse d'être examinée. Mmh. Et vous posez cette question de la pudeur aux urgences quand les salles d'attente sont saturées, qu'il faut quand même examiner et que les box, ce sont les box, sont pleins. Est-ce qu'il y a encore la place pour la pudeur aux urgences ?
De moins en moins, on essaye en fait. De toute façon, c'est un peu comme ça pour tout à l'hôpital. Hein. C'est-à-dire que les personnels essayent de tenir et de faire... comme on peut pour préserver au maximum. Mais de fait, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'examiner un patient dans le couloir. Bon, là, à un moment, vous pouvez essayer d'être discret, faire tout ce que vous voulez. C'est quand même pas... et même la souffrance. Moi, j'ai beaucoup de peine pour les gens qui souffrent. Parce que même sans les examiner, même sans parler du corps et de la façon dont peut-être on va dévoiler, juste souffrir, juste avoir mal devant les gens. Regardez-vous, en général, quand on a mal et qu'on n'est pas bien, on fait tous la même chose. On s'isole à un endroit où on ne va pas être vu parce qu'on n'est pas franchement au meilleur. Et quand vous êtes comme ça devant 20 personnes, devant le cortège de gens qui passent devant vous, etc., et que vous avez mal, que vous vomissez, c'est franchement pas respectueux. Donc,
non,
il y a de moins en moins de place.
Et de respect. Dans ces cas-là, vous mettez un drap, enfin voilà, vous organisez ce que vous expliquez.
On essaye, comment on trouve
un moyen.
Parfois, il n'y a pas, et puis ils sont dans le couloir devant les autres. Enfin, littéralement, on n'a pas toujours. On met un drap quand il s'agit d'uriner ou d'aller aux toilettes ou des choses comme ça. Mais moi, je trouve qu'il y a aussi la pudeur du sentiment, la pudeur. Et parfois, quand vous êtes obligé de pleurer devant. Vous n'avez pas envie que tout le couloir vous voit pleurer et pourtant, vous n'avez pas le choix. Et je crois qu'il ne faut pas enlever, il ne faut pas écarter la pudeur du corps de celle de l'esprit.
Vous êtes quand même optimiste dans votre livre. En plus, vous décrivez que le système de santé français solidaire peut encore être sauvé.
Bien sûr.
Oui, c'est possible. On peut encore le sauver. Comment ?
Bien sûr. Oh bah il faut qu'on s'y mette tous. De toute façon, il peut être sauvé que s'il y a un changement de paradigme de la façon dont on considère le soin, dont on considère la santé dans ce pays.
Mais est-ce que le soin c'est une marchandise objectifs. Comme une autre finalement?
Voilà, c'est pour ça que je dis il peut être sauvé à condition de changer de paradigme, à condition de ne pas considérer le soin à la santé comme des chiffres, mais de les considérer comme un service rendu à la société tout entière. Et à ce moment-là, si on le repense comme ça, on va y arriver. Mais aujourd'hui, vous avez.
Mais c'est
quand
à
même,
qui de le penser?
Eh ben, c'est à tous, mais c'est surtout à nos gouvernants de l'appliquer, puisque nous, on le pense comme ça. Tous les soignants le pensent comme ça. Aujourd'hui, les citoyens, les usagers le pensent comme ça. C'est ce qu'ils disent. Les seuls qui l'empêchent de fonctionner comme ça, ce sont les gens qui nous gouvernent. Donc, il faut qu'on continue à mettre la pression sur ceux qui nous gouvernent pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ça et que leur rôle. C'est de s'assurer de l'intérêt général. Et quand l'intérêt général, il dit, messieurs, dames, c'est pas comme ça qu'il faut voir la santé, c'est un service rendu à tous et pas une colonne de chiffres, il faut qu'ils nous écoutent. Et s'ils ne nous écoutent pas, on va les obliger à nous écouter.
Vous avez écouté aujourd'hui, on va vous lire, Sabrina Ali Ben Ali, votre livre s'appelle La révolte d'une infirmière, santé, hôpital, état d'urgence.
D'une interne.
D'une interne, pardon. Je suis fatigué, c'est pour ça. Au Cherche Midi, merci d'avoir été avec
merci
nous.
À vous.
Au revoir.
Retrouvez à votre service tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.